Chapitre 4. 4 juin. Ta malice est en défaut, ma chère amie, car je le crois trop modeste pour s'appliquer l'orgueilleuse phrase de ton héros. Pourtant, s'il vient, il vaincra, c'est certain. Mais ne l'assimile plus à César, je n'aime pas les conquérants. Si on laissait les pauvres gens vivre tranquillement chez eux à leur guise, soit en s'égorgeant si ce passe-temps leur plaît, soit en pratiquant des rapports plus doux, on s'éviterait des embarras bien désagréables. Mais les hommes ont la rage de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Mon roman, comme tu l'appelles, sera-t-il pourvu des bottes de 7 lieues? Je crains au contraire qu'il ne marche à pas compter, comme un perclus qui ne peut faire usage à la fois de tous ses membres. S'il jette un jour ses béquilles, il faudra qu'il court sur la volonté de ma famille pour lui faire mordre la poussière. Mais le pays conquis, qu'il soit roman ou famille, ne se rendra pas sans débat et sans cri. Ce qui prouve que j'ai bien raison et que la bonne parole n'est pas « convertissez-vous », mais « faites ce que vous voudrez ». Les conversions lance au point ne valent pas le diable. Nous étions à déjeuner quand Maître Jamin est entré dans la salle à manger pour causer un peu et nous apprendre les nouvelles. Mais, au lieu de débuter par la seule chose qui m'intéressa, il commença par nous parler de ses petites affaires et voulut nous convaincre que son âme, aussi placide que sa bonne figure, était en ébullition. « Je viens de rencontrer Guibert. Voyez-vous, quand je vois cet homme-là, je ne sais pas ce que je lui ferai bien. C'est lui qui a jeté, une nuit, un sort sur mes chevaux. Le jour où je lui donnerai une raclée, il l'aura pour de bon. » Dans ce pays-ci, les gens mettent des thés partout et les font sonner comme s'ils étaient suivis d'un meuf, ce qui ajoute au pittoresque de leur langage. Grand-mère a passé toute sa vie à la campagne, au milieu des paysans. Elle devrait être habituée à leurs croyances. Néanmoins, quand elle entend parler de sort, elle se fâche immédiatement. « Vous êtes aussi bête que cette carafe !» s'écria-t'elle en frappant sur la table. « Voyons, Jamin, personne ne jette de sort, vous le savez bien. »« Pour sûr que c'est vrai pourtant, madame. Pour sûr, pour de bon. » « Ah, la canaille! Je l'ai vu qui venait aujourd'hui à ma redevance. »« Eh bien, l'avez-vous un peu battu ?» demandai-je. « C'était le cas d'en finir, monsieur Jamin. »« J'ai pris un autre chemin, mademoiselle, parce que, voyez-vous, si je lui avais donné une tape par la goule, j'aurais bien été capable de le tuer. » Et comme je riais, il reprit. « Pour sûr que je l'aurais tué. J'ai eu peur de moi, voilà pourquoi je n'ai pas voulu lui parler. Enfin, c'est pas tout, ça. » « Eh bien, v'là donc M. Hervé revenu dans le pays ?»« Vous l'avez vu ? » dis-je vivement. « Non, mais j'ai rencontré le gars à la Viturin qui lui avait parlé. » Pendant que ma cousine et grand-mère le questionnaient, je baissais le nez sur mon assiette sans rien dire, en songeant à la joie de le revoir, peut-être le jour même, ce vieux compagnon de mon enfance, le complice de toutes les sottises que j'avais envie autrefois d'exécuter. Comme on vieillit cependant. Le voici devenu un savant comme son père. Il a été envoyé en Asie par je ne sais quelle société et depuis 4 ans, il vit dans ces pays, observant et prenant des notes. Son père et lui, c'est du bien bon monde. Seulement, ça n'est point riche du tout, ajouta Jamin en se levant. Allons, adieu, mesdames, portez-vous donc bien. Il nous verrait 10 fois par jour qu'il nous ferait 10 fois ce souhait charitable. « Le pauvre garçon n'est pas, en effet, dans une brillante position, » dit ma cousine. « La vie a des cruautés bien inutiles, » ajouta-t-elle avec mélancolie. « Je suis sûre qu'Hervé en est encore à découvrir les cruautés de la vie, » dis-je un peu nerveuse. « S'il n'a pas d'argent, les murs resteront par terre au lieu d'être debout, voilà tout. Il touchera du doigt les ennuis quand il voudra se créer un intérieur et qu'il se verra obligé de rester vieux garçon. » « Eh bien, dit grand-mère paisiblement, il travaillera à ses livres et vivra avec son père. » Comme si son père devait être éternel. J'enrageais de le voir ainsi condamné tout tranquillement et comme la chose du monde la plus simple à une vie d'isolement. « Il fera mieux, dis-je, d'épouser une femme pauvre comme lui et de créer une famille pour la misère. C'est une idée pratique à toi, Claude. » Cette réflexion est de ma cousine qui, étant la femme la plus impratique de la terre, a la manie de chercher noise à mon sens pratique. comme si ce sens n'était pas merveilleux quand il consiste à ne point rêver l'impossible et à tirer de sa position le parti qu'il convient. Il faut bien que je m'adresse à moi-même quelques compliments, puisque personne ne m'en fait. J'ai été d'humeur sombre toute la journée. Mes compagnons habituels s'étaient terrés comme des lapins et m'avaient abandonné à mon marasme qui grandissait d'heure en heure parce que je comptais sur une visite qui n'arrivait pas. À l'horizon, il n'y avait qu'herbe roussie et poussière poudroyante. Mais tu sauras que je ne suis pas femme à laisser ma mauvaise humeur s'ingérer si bien dans mes affaires que ce n'est plus moi qui les dirige. J'en voyais promener ma visiteuse et prenant Hamlet, j'allais m'asseoir à l'extrémité d'une avenue abandonnée. Ces noyers sont si vieux, que leurs têtes deviennent chauves et, dans leurs gros troncs, les abeilles essaiment chaque année. Je m'installai sur un petit mur, à l'endroit d'un clos qui fut autrefois à nous et que la maladie a ravagé. Ainsi, entouré de noyers expirants et de vignes qui ont vécu, j'aurais pu méditer sur la fragilité des choses terrestres s'il ne m'avait pas paru plus simple d'admirer les rayons de soleil sur l'herbe verte, c'est-à-dire quand elle est verte, car la nôtre, à cause de la chaleur exceptionnelle, est rôtie depuis longtemps. Puis, me plongeant avec ardeur dans Hamlet, mon esprit s'en allait courir dans la philosophie et répétant « to be or not to be ». J'arrivais à la conclusion que j'étais sûre d'exister, que toutes les idées, même les idées folles, n'avaient pas pour principe de vie. Parvenu à ce point de ma sagesse, je m'interrompis pour lever les yeux et, dans le chemin défoncé, j'aperçus, planté sur un cheval plus maigre que Rosinante, un cavalier qui me regardait effrontément. Je le regardais de la même façon et une foule d'échos résonnèrent autour de moi, comme les notes charmantes d'un instrument délicat. De fines vibrations s'échappaient des blés qui jaunissent, des herbes brûlées, des ornières du chemin. Elles nous enveloppaient comme une légion d'amis exquises qui parlaient toutes à la fois dans leur joie de nous retrouver. Peut-être Hervé écoutait-il comme moi leur voix fugitive, car il resta une bonne minute sans bouger ni parler, et j'aurais pour ma part prolongé plus longtemps ce moment qui me donnait peu à peu l'impression troublante de vieux parfums enfermés dans des tiroirs rarement ouverts et passant ainsi à plusieurs générations. Mais il parla et le charme fut rompu. « Claude, vous me reconnaissez ?»« Assurément, dis-je, bien que vous ressembliez quelque peu à un maure. » Je m'approchai, lui donnai ma main, qu'il garda dans la sienne, en frappant distraitement sur mes doigts avec l'extrémité de ses rênes. Je mourais d'envie de savoir ce qu'il pensait, pendant que, sans mot dire, il m'examinait avec la gravité d'un arabe en prière. « C'est une habitude que vous avez prise là-bas » demandai-je un peu impatienté. « J'ai traversé tant de pays dangereux, répliqua-t-il, que je ne puis faire un pas maintenant sans regarder avec défiance autour de moi. » « Merci bien, dis-je en riant, mais vous êtes dans notre bonne province d'Anjou, et les femmes n'y sont point des bêtes féroces. »« Que sait-on ? » me répondit-il avec gravité. « Je l'aurais battu. C'était trop fort, après 4 ans d'absence, de ne trouver rien de mieux à dire que de me comparer à un crocodile ou à un jaguar. »« Est-ce la politesse des Persans que vous rapportez ? » demandai-je. « Vous m'avez l'air de ne plus connaître la civilisation. » « Vous croyez ? » dit-il en riant et laissant tomber ma main. « Après cela, c'est bien possible. Mais j'aurai le temps de renouveler connaissance avec elle, car adieu les missions et les voyages. »« Vous revenez donc définitivement à Chétigné, Hervé ?»« Oui, mon père est bien infirme maintenant et je ne puis le laisser seul plus longtemps. On m'avait proposé une nouvelle mission, je l'ai refusée. »« Mais bah ! » dit-il en faisant un geste comme pour chasser un dernier regret. Il est aisé de se plaire partout. Cette phrase, ma chère amie, te le peint tout entier. À peine sera-t-il complètement installé qu'il s'organisera une bonne petite vie occupée qu'il trouvera délicieuse. Il écrira un ouvrage géographique ou historique en collaboration avec son père. Il m'en a déjà parlé, ce projet lui tenant au cœur. Il illustrera lui-même son livre car il dessine à merveille. Il est assez musicien pour jouer agréablement du violon et nous ferons de la musique ensemble comme autrefois quand nous débutions. Qu'importe alors d'habiter au fond d'un village de vieux murs écroulés. Claude plaide pour son sein, Claude plaide pour son sein. Cette petite phrase m'arrivera en sourdine à travers de lointaines contrées quand tu liras ma lettre. Mais mon sein, crois-le bien, est le plus aimable des saints. Si jamais il organise mon foyer et prenne enfin sa place dans l'âtre, tu verras s'il manque de séduction, tout sain qu'il soit. Il s'était remis à m'examiner pendant que je marchais auprès de Rossinante. Puis, regardant autour de lui, il s'étonnait de retrouver tout semblable. Les mêmes crevasses dans le mur, les mêmes pierres effritées au vieux portail construit en même temps que le prieuré, et sur le haut duquel poussent des œillets sauvages et des églantiers, pendant qu'un tilleul argenté le couvre en partie de ses branches. « Mais, dis-je, songez que depuis 4 ans seulement vous êtes parti, et que le Volnay a vu passer 500 ans sur lui sans être ébranlé. » « C'est vrai, dit-il, en sautant à bas de son cheval pour le faire passer par la petite porte ronde qui est à gauche de l'épais portail, afin que je n'eusse pas la peine de lui ouvrir les grandes portes à claire-voie toutes vermoulues. Mais j'ai vu tant de choses dans ces 4 années que l'immobilité des objets familiers me paraît étrange. » Pendant que nous traversions la grande cour de ferme par laquelle il est nécessaire de passer pour arriver au château, car tels étaient les lieux il y a 200 ans, tels y sont restés, j'avais bien envie de lui demander son impression sur moi, car enfin, je n'ai pas dû être immobile comme une pierre. Mais il entra en silence et d'un air recueilli dans la petite cour comprise dans l'enceinte des 3 corps de logis qui forment la façade principale de l'habitation. Autrefois, elle était toute en cloître dont il ne reste aucun vestige. Un mur d'appui, surmonté d'une grille en bois entièrement garnie de plantes grimpantes, la sépare de la grande cour. Les murailles de la maison sont couvertes jusqu'à mi-hauteur de lierre, de jasmin et de viorne. Hervé s'extasia sur la vigueur du lierre, tellement épais que, dans le renfoncement des portes, on serait à l'abri des pluies les plus violentes. Il a épaissi de moitié depuis mon départ. Cependant, tout est bien pareil, ajouta-t-il en regardant la pompe posée au milieu de la cour dans un rond-point de gazon et les fleurs rustiques qui, dans les plates-bandes circulaires, s'ouvrent à la vie, va comme je te pousse. Puis son expression se rembrunit en me regardant, et, comme nous entrions dans la salle à manger, qui sert également de vestibule, il s'arrêta tout à coup. « Et cependant, dit-il, il y a un grand changement ici, puisque vous vous mariez. » « Qui vous a appris cela, Hervé ?»« Tout le monde, du moins les bonnes gens auxquels j'ai parlé. » C'est le bruit du pays. Le fait extraordinaire d'un prétendant s'est en effet produit, répondis-je laconiquement. J'eus un instant la pensée de le laisser en suspens, mais il y avait dans cette façon d'agir un jeu de coquetterie tout à fait en dehors de mon caractère, aussi j'ajoutai « J'ai jeté ce prétendant à l'eau. » Et, satisfaite de l'éclair qui passa dans ses yeux, j'ouvris vivement la porte du salon. Il fut accablé des questions les plus variées, grand-mère voulant absolument savoir si les Tibétains sont bons maris, s'ils mangent de la soupe au chou vert et s'ils savent que Charles X était un sot. Ma cousine s'occupait avec sollicitude des persans. Ils ont une philosophie à eux, n'est-ce pas? Beaucoup d'idées profondes. Lisent-ils nos auteurs? Et leur religion, elle ne tient pas debout, je crois. Mais, dit Hervé malicieusement, il y a parfois une grande similitude entre leurs sentiments religieux et les nôtres. Par exemple, s'écria grand-mère fâchée, allez-vous vanter aussi leurs mœurs? Mon Dieu, elles sont celles de la plupart des orientaux, répondit Hervé avec la philosophie d'un homme qui a beaucoup vu. Et vous les trouvez belles? Reprit grand-mère en se fâchant un peu plus. Voyez-vous, je ne fais pas plus cas de vos persans que de ce petit bout de papier. J'ai lu qu'ils avaient au moins 50 femmes à la fois. C'est bien laid. » Et grand-mère, qui dit tout, se fourvoya dans une dissertation équivoque. « Ils ont de charmants proverbes, » interrompit vivement Madame de Linès. « Moi, je les appelle des bêtes, » dit grand-mère en poursuivant son idée. « Et... » « Voulez-vous m'en donner quelques-uns, Hervé ?» demanda ma cousine. « Et toutes ces femmes-là, » reprit grand-mère, « femmes et hommes d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu, et ce que j'ai lu n'est pas beau. Ainsi ?»« Votre père doit être bien heureux de votre retour, s'écria madame de Linès, qui, dans sa détresse, ne trouva pas de meilleure diversion. Mais Laure, je ne sais pas pourquoi tu m'interromps toujours, dit grand-mère en s'impatientant. Laisse-moi donc expliquer à Hervé que ces persans qu'il a l'air d'aimer sont des... Puis, sur un signe de ma cousine, ses yeux tombèrent sur moi, et elle reprit son ouvrage en disant avec humeur « Mon Dieu, ce que j'allais dire n'était pas si terrible !» Pendant la visite d'Hervé, je restais silencieuse, car j'avais fort à faire de débrouiller mes sentiments et mes observations. Puis je m'amusais de l'effet que produit la solitude sur trois ermites qui sont arrivés à posséder la conviction que les riens de leur vie doivent avoir, aux yeux de l'univers, voire des persans, l'importance de curieux événements. Est-ce ta pensée en me lisant ? Il est vrai que tu n'es ni univers, ni habitante de la Perse. Ma soirée s'est passée à entendre discuter les mérites du voyageur. Grand-mère disait, « Il a plutôt embelli, car ce teint brun le fait ressembler à un Espagnol. » « Il parle vraiment un homme intelligent, » disait ma cousine d'un air étonné. « Voilà qui est surprenant, après toutes les preuves d'intelligence qu'il a données dans son enfance et par le résultat de ses brillantes études. Mais on dit qu'il est difficile de passer pour un esprit supérieur auprès des gens qui vous ont vu naître ou vous ont toujours connu. Hervé sera toujours considéré ici comme un enfant. Ensuite, je ne sais pourquoi il doit être si satisfait de ressembler à un Espagnol au lieu de ressembler tout bonnement à un Français. Si ce n'est peut-être que, pour certains yeux, les objets éloignés revêtent un charme d'autant plus séduisant qu'il est inconnu. Pour moi, j'admire et j'aime ce qui m'approche ou m'entoure sans en chercher plus long. Je suis bien convaincue que mes chaînes, à leur façon, valent les cèdres du Liban, ne serait-ce que parce que si on parlait d'eux dans le Liban, ils y seraient admirés de confiance. Adieu. J'éprouve un plaisir extrême à te conter ma vie par le menu et le détail. Malgré les enthousiasmes de touristes qui débordent dans ta dernière lettre, sache bien que point n'est besoin de s'en aller de montagne en montagne pour découvrir des merveilles. Ma plaine en contient assez pour occuper une existence courte ou longue. »